Innombrables sont les chrétiens qui remplacent leurs frères martyrisés. Ces pensées fiévreuses bataillaient dans la tête de François. Sa fraternité était fondée. Le couvent de Bologne accueillait sans cesse des convertis venus de tous les coins d'Italie et même d'ailleurs. N'avait-il pas entendu le bruit de leurs pas? Sa mission achevée dans sa patrie, il pouvait étendre le royaume du Christ avec son sang et remporter la palme convoitée entre toutes. Avec un compagnon, il partit pour Ancône, le port le plus proche. D'Ancône en Syrie, le voyage n'est pas une simple promenade. Pour descendre l'Adriatique et contourner la Grèce, il faut bien compter 3 semaines si les vents sont propices. Mais le vent a ceci de particulier selon les psaumes, il accomplit la parole de l'Éternel, qu'il s'agisse de l'invincible armada ou du bateau qui porte François d'Assise. Et voici que ce bateau-là se trouve en contradiction avec le vent qui ne veut absolument pas souffler au gré des voyageurs et les pousse vers la terre, vers le pays d'en face, la Dalmatie. Force est de prendre refuge dans le port de Zara, où François n'a que faire. Comment ne pas songer à la nuit de Spolète? Dieu avait barré la route des champs de bataille à François dans sa belle armure, muni d'une lance et d'un bouclier. On ne peut pas discuter avec l'Éternel. Tantôt il se sert de la maladie, tantôt il élève la muraille du vent. François est déçu, et il ne lui reste plus qu'à retourner en Ombrie. Mais avec quels moyens? Il n'a pas un sou. Qu'importe. Lui et son compagnon s'embarquent subrepticement dans le bateau qui fait voile vers l'Italie. À Fontcale, on ne les trouvera pas. Erreur. Bel et bien découvert, les passagers clandestins sont menacés d'être débarqués sur le premier rivage, lorsqu'arrive un de ces inconnus providentiels qui les prend en pitié et donne aux matelots une quantité imposante de victuailles. À ce prix-là, on veut bien ramener ces 2 espèces de moines. Cette fois, le vent se comporte comme il faut, et au bout de quelques jours, le croisé candidat au martyr peut reprendre le chemin de Sainte-Marie-des-Anges, obéissant et penaud. Les incidents comiques ne manquaient pas. Rire n'était pas interdit, au contraire. Pour François, la mélancolie venait tout droit du démon. Un jour, il eut une différence d'opinion avec frère Bonaparte, qui veillait sur les cuisines. Celui-ci dit à François: « Je fais de mon mieux pour te préparer des plats que tu puisses manger, et qu'est-ce que tu fais? Tu y mêles de l'eau et des cendres. » « Frère Bonaparte, lui répondit François, c'est l'intention qui compte, pure chez toi comme chez moi. Dieu nous récompensera l'un et l'autre. » Des questions se posent irrésistiblement à l'esprit devant l'indignation de frère Bonaparte. L'ascèse de François allait beaucoup plus loin que ses consternantes fantaisies diététiques. Macération, jeûne prolongé et multiplié, n'altérait-il pas une santé déjà sérieusement atteinte? Nous savons aujourd'hui de façon certaine que François souffrait de tuberculose osseuse et de malaria. Son testament confirme, sans fournir de précision, cet état maladif. Comment donc s'en tirait-il? Il est naturel de penser que le ciel lui donnait les forces nécessaires en temps voulu. Et c'est bien ce que nous croyons. Mais on ne doit pas pour autant oublier que la vie en plein air venait à son secours. Il respirait dans le voisinage bénéfique de ces grandes personnes amicales qu'étaient pour lui les arbres de la Portioncule et des forêts de l'Alverne. Ajoutons qu'il choisissait toujours ses refuges là où l'air le plus chargé d'ozone le revigorait, dans les bois, près des sources. Témoins les ermitages du Val de Rieti, Fonte Colombo, La Foresta. Ces noms parlent d'eux-mêmes. Et l'île déserte du lac de Trasimène. Il reste ceci que cette existence défiant toutes les fatigues pour le salut des âmes constitue en elle-même une sorte de miracle. Thank you.